Radio Capi, grand témoin.
Ancien vice-ministre de la Justice, vice-président chargé des relations extérieures de l'Alliance nationale de l'autorité traditionnelle du Congo et sénateur, le grand chef coutumier Emery Kalamba Wafana est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Emery Kalamba, soyez le bienvenu.
Merci.
On a un peu de mal à choisir entre le sénateur et le grand chef. J'espère ne pas avoir commis un crime de lèse-majesté.
Non, pas du tout.
Comment salue-t-on les chefs coutumiers chez les bachidariens?
Écoutez, on salue comme toute personne. On s'adresse à moi, Monangana, Moyo.
Ah, Tatou Kalamba, Moyo.
Moyo, oui.
Voilà. Vous naissez le 12 janvier 53, mais dans quelle partie du pays?
Je suis né donc à Kananga, au Kassai occidental, futur province du Kassai central. Le 12 janvier 1953.
Vous êtes grand chef coutumier des Bachilagné, Louloua du Kassai occidental, on en parlait tout à l'heure. Parlez-nous du pouvoir traditionnel dans votre contrée.
Vous savez, d'abord pour parler du pouvoir, il faut parler du peuple Louloua lui-même. Les Louloua, comme vous savez, nous sommes tous des Louba, qui sont partis de l'actuel Katanga, ce qu'on appelle Sanalubangu. Les Louloua sont en fait des Louba qui sont partis le plus à l'ouest. Et donc à la rencontre des autres ethnies qui étaient donc les longs de la rivière actuelle Louloua, s'est formé donc un royaume sous l'impulsion de Kalamba Mukenge, un de mes aïeux, qui a regroupé donc toutes ces tribus pour leur donner une identité propre, qu'on appelait d'abord au départ c'est les Bachilangé. Et quand donc l'explorateur blanc est arrivé, le premier c'était donc l'Allemand von Wissmann, et c'est lui qui, naissant chat pour peut-être prononcer Bachilangé, s'est référant donc à la rivière Mboa, étant donné que ce peuple vivait donc sur les rives de cette rivière, les a appelés donc les Mboa. Ils sont connus aujourd'hui comme Mboa. Au départ, ce sont les Bachilangé. Alors, Bachilangé, le pouvoir traditionnel, je crois, s'est transmis en fait comme donc organisé comme chez les Louba, de manière générale.
Des pères en fils.
Des pères en fils, effectivement, et pas nécessairement donc les fils aînés. Donc c'est généralement donc les fils considérés par celui qui part comme étant le plus méritant et dont la candidature sera approuvée par le conseil de notables qui approuve donc ces choix-là, et c'est celui-là qui remplace le roi qui décède.
Quel genre d'enfant était l'héritier du trône des Bachilangé?
Oh, vous savez, j'ai eu une enfance tout à fait normale, c'est ça aussi, parce que dans la mesure où, comme j'ai dit, ce n'est pas donc le principe de succession, ce n'est pas la primogéniture, donc au départ, on ne sait pas qui va être donc remplacé les chefs, donc j'ai eu une enfance tout à fait naturelle, j'étais à l'école primaire assez tôt, j'étais à l'internat, quand même une formation, on a quand même une formation de prince, j'ai quitté donc ma famille qui devait avoir 6 ans pour aller dans un internat, elle a duré environ 3-4 ans, ensuite j'ai été envoyé en Europe, où aussi... j'ai subi les duretés de l'internat, ça m'a permis de me former également. Et puis voilà, j'ai fait toutes mes études, et puis j'ai un métier que j'exerce jusqu'à présent, donc je suis devenu avocat.
Donc une enfance naturelle.
Naturelle, tout à fait normal, oui.
Emery Kalamba Wafana Umutambi, que signifie votre nom?
En fait, Emery Wafana, c'est le nom de mon oncle. Je crois que les expressions qui m'ont été données, c'est-à-dire que mon oncle s'appelait Wafana, ça veut dire Wafana Kalamba. Mais Kumutambi, c'est-à-dire que tu peux ressembler donc au chef, parce que Kalamba ça veut dire grand chef, le nom déjà lui-même. Tu peux ressembler au chef, mais tu ne peux pas le dépasser. Wafana Kalamba Kumutambi.
En 1978, vous devenez licencié en droit, option droit économique de l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Qu'en est-il de vos études primaires et secondaires? Vous parliez déjà de l'internat.
Ma première école, ça a été donc à l'Institut Saint-Denis Salvio à Mikalaï, où je suis allé quand même assez jeune, où j'ai des souvenirs encore assez pénibles parce qu'on quittait donc la famille et on partait pour 3 mois, donc on revenait que pour les grandes vacances. Et puis ensuite j'ai fait 3 ans donc à Saint-Denis-Savio. Ensuite je suis allé au collège Saint-Louis à Kananga où j'ai fait 1 an. Et je suis alors parti en Belgique, où j'étais aussi à l'internat à l'Athénée Royale des Forêts, où j'ai fait en fait toutes mes études, où j'ai terminé mes humanités avant d'aller à l'université d'Empire de Bruxelles pour faire le droit.
En 1885, vous obtenez votre maîtrise en droit international des affaires au Law Center de l'université Georgetown de Washington aux États-Unis. Vous avez aussi un certificat de l'Académie de droit international de La Haye aux Pays-Bas. Grand chef Kalamba, vous considérez-vous comme faisant partie d'une nouvelle génération de chefs coutumiers, à l'instar du grand chef Mwantiab de Lunda qui est avocat, du Mwami Munongo, le grand chef des Bayeki qui est aussi sénateur?
Ben oui, il faut croire. Hein. Je pense que à l'époque, en fait, du chef coutumier, il est très réduit à des activités souvent folkloriques et bien terminées. Je crois que nos parents déjà avaient bien compris que l'avenir se trouvait dans les études. Et du reste, c'est ce qui aurait dû être fait dès le départ. Si vous voyez en fait les familles royales, les familles des chefs, par exemple, au Nigeria, au Ghana, ce sont donc des familles qui ont été donc aux études très tôt. Hein. Vous avez au Nigeria, au Ghana, vous avez en fait dans les familles des chefs, vous avez, je sais pas moi, 5 générations d'avocats ou de médecins. Parce que l'idée donc des Anglais qui appliquaient le home rule, quand ils sont venus donc s'installer dans ces pays, ils se sont basés en fait sur les familles royales. Donc on les a. Au lieu de les ignorer pour placer d'autres personnes beaucoup plus malléables, on s'est plutôt axé sur ces personnes-là pour les envoyer dans les bonnes écoles d'Oxford, ainsi des suites de Cambridge, pour faire de bonnes études. Et je crois que nos parents, nous, l'ont compris un peu tard, mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, effectivement, on voit émerger de plus en plus donc des chefs qui sont instruits, qui ont fait des études au-delà de ce qu'on peut espérer, quoi.
Vous le savez, le 27 décembre dernier à Kinshasa, il s'est tenu le forum des rois, sultans, princes, cheikhs et chefs coutumiers africains. Il y avait pris part les représentants de la RDC, de la Libye, du Congo-Brazzaville, du Cameroun et de la République centrafricaine. L'une des recommandations de ce forum était la constitution d'un gouvernement fédéral africain. Ces travaux étaient présidés par Célestin Mbouyou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je vous invite à suivre les détails avec notre consoeur Babel.
Dans un communiqué publié à la fin des travaux, les autorités traditionnelles ont lancé un appel à leurs responsables politiques respectifs pour mettre en œuvre la structure fédérale de l'Union africaine. Une structure qui sera représentée par un gouvernement fédéral dans les secteurs clés tels que la défense, les affaires étrangères, le commerce extérieur, le transport et communication. Les autorités coutumières africaines réclament également l'institution d'une monnaie unique, d'une banque centrale unique et d'un passeport africain, et aussi la liberté de mouvement des personnes et des capitaux, de travail, de séjour et d'appropriation. Une délégation des autorités traditionnelles se rendra en janvier au sommet de l'organisation panafricaine à Addis Abeba pour transmettre leur appel. Ces autorités coutumières estiment que le moment est venu pour que l'Afrique s'unisse afin de faire face à d'autres blocs du monde. S'adressant à l'Union africaine, le secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités coutumières de la RDC a demandé que le statut de consultant soit accordé aux chefs traditionnels africains. Il a aussi invité les dirigeants africains à éviter la médiation étrangère et à privilégier les efforts des chefs traditionnels africains dans le règlement des conflits du continent. Noté qu'il s'agit de leur troisième rencontre après celle de la Libye et d'Abidjan.
Grand chef Kalamba, pensez-vous que ces recommandations, un gouvernement fédéral africain, un passeport africain, une banque centrale africaine, pensez-vous que ces recommandations soient réalistes de la part des chefs traditionnels africains?
Oui, d'une certaine manière, même si c'est vrai que l'idée d'un gouvernement africain en tant que tel peut apparaître utopique, mais c'est une très bonne chose, mais en même temps, il faudrait quand même commencer quelque part. Est-ce que déjà au sein des États eux-mêmes ou bien d'organisations régionales, on n'est pas capable de pouvoir, par exemple, faciliter la circulation des biens et des personnes? Alors, si on n'est pas capable, par exemple, au niveau de CAC, au niveau de CPGL, au niveau de d'autres organisations régionales, on n'est pas capable de pouvoir, en fait, imposer ces structures, en fait, à la fois politiques, économiques et financières, on a du mal à croire, effectivement, qu'on puisse réussir cette démarche au niveau global. Donc, je pense que l'idée des chefs est tout à fait légitime, mais je pense qu'il faudrait commencer quelque part. Hein. Il faut commencer petit, ou c'est plus facile. Et souvent même, d'ailleurs, est-ce qu'on peut circuler facilement dans des territoires de certains États africains?
N'oubliez pas qu'il n'y a pas encore longtemps, pour aller de Kinshasa à Kananga ou en Bujima, il fallait encore, outre pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, il fallait un sauf-conduit. Donc il faut quand même qu'on balaye devant sa propre porte avant d'aller vers ces idées qui sont certes très ambitieuses, mais difficiles à mettre en place.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Grand chef coutumier Émeric Alamba Wafana, vous êtes ancien vice-ministre de la Justice, vice-président chargé des relations extérieures de l'Alliance nationale de l'autorité traditionnelle du Congo et sénateur. À Bruxelles, en Belgique, vous avez été collaborateur de Maître Lambrecht. De 81 à 87, vous êtes collaborateur au cabinet d'Ankan, Alain et Mitchell, au bureau de Kinshasa, Abidjan en Côte d'Ivoire et Washington aux USA. Quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience?
Mais forcément, comme on a pu voir, c'est une expérience que j'ai considérée comme très enrichissante, qui m'a permis donc d'être exposé à des idées qui ne sont pas nécessairement les miennes, puisque j'ai à la fois reçu une culture européenne, une culture américaine, basée sur ma culture en tant que Congolais. Et tout ça a fait de moi quelqu'un qui peut recevoir des idées donc qui soient différentes. En fait, c'est une richesse culturelle que je possède en moi.
Ça vous donne un peu plus d'ouverture.
C'est bien ça. C'est bien ça.
En 1987, vous êtes associé fondateur du cabinet Kalamba et Associés, spécialisé dans le droit minier et pétrolier. Votre thèse pour la maîtrise en droit international des affaires à Georgetown University Law Center porte le titre « Études comparatives du droit minier congolais et ivoirien ». Quels sont les résultats de cette comparaison ?
Bah écoutez, à l'époque, c'était quand même 80, c'était, si je me souviens, parce que ça fait quand même longtemps, c'était de voir un peu qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans la loi minière ivoirienne. Je me souviens, en fait, c'était surtout au niveau de l'existence, par exemple, de ce qu'on appelle un contrat de partage de production qu'il y avait dans la loi ivoirienne. C'est-à-dire, par exemple, en matière d'exploitation pétrolière, le partenariat entre l'État et les privés se faisait non pas donc en cash, se faisait par le partage directement à la sortie du puits des barils de pétrole. Donc, si vous avez 40%, l'État recevait donc à la sortie, on lui donnait 40% en barils de pétrole. Et c'était une innovation à l'époque, parce que ça permettait à l'État d'avoir son produit et de pouvoir aller le négocier donc au prix qu'il voulait. Ça, c'est par rapport donc à ce qui se faisait dans les années antérieures, c'était déjà une évolution que nous n'avions pas encore introduite dans notre législation ici au Congo.
En 1995, vous êtes chargé des missions du ministre des Mines. Que répondez-vous aux exploitants miniers qui fustigent la non-application du code minier congolais?
Ben vous savez, ça c'est un débat, à mon avis, très large. Il faudrait plus une émission. Mais pour résumer, je dirais simplement que ayant non seulement travaillé avec l'ancien vice-premier ministre Benjamin Kalaï, dont je fais les chargés de mission, un excellent ministre des Mines de l'époque, et puis ayant participé également donc à l'élaboration en tant qu'expert du nouveau code minier, je dirais que le code minier qui a été promulgué donc en 2002, nous sommes aujourd'hui donc en 2009. Je crois qu'il est prématuré pour pouvoir en fait tirer le bilan de l'efficacité de ce code, parce qu'il faut voir un peu d'où on vient avec la loi de 81 qui a été fort critiquée, où c'était en fait les systèmes de conventions minières par lesquelles en fait les sociétés étrangères négociaient avec l'État des conventions dans lesquelles ils obtenaient des avantages exorbitants du droit commun, des exonérations, des taxes, ainsi de suite. Ça a fait que on s'est rendu compte qu'au bout des années, l'État ne recevait rien. C'est comme ça qu'on a mis ces codes actuels où en fait il n'y a plus ces exonérations, parce que les sociétés minières sont sujets donc à un système fiscal bien déterminé. Mais je pense qu'il est prématuré, à mon avis, de tirer donc les bilans de ce code. Il aurait fallu un peu de recul pour pouvoir le faire.
À la troisième journée minière du Congo, vous avez développé le thème relatif à la réglementation applicable à l'exploitation artisanale des substances précieuses. Ne pensez-vous pas que la RDC souffre d'une multiplicité de lois non appliquées ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je crois que justement c'est le mérite du code minier actuel qui a donc eu le mérite de pouvoir en fait mettre tout ça dans ce qu'on appelle le code. Il suffirait simplement de pouvoir l'appliquer, parce qu'à l'époque où je suis intervenu à cette troisième journée minière, il y avait un peu l'aspect d'exploitation artisanale et qui était réglé par des lois d'éparses, mais aujourd'hui tout ça est réglementé par la loi. Mais pour revenir sur l'activité donc artisanale, il faut bien se dire que ça dépend un peu, c'est une question de politique. Qu'est-ce qu'on a comme, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Si vous regardez froidement, il n'y a aucun pays qui s'est développé avec l'activité artisanale. Mais c'est vrai que nous avons un problème au Katanga, au Kasaï, où vous avez en fait toutes ces populations qui se livrent à ces types d'activités. Mais la réalité, si donc l'État devait regarder ça froidement, vous prenez des pays comme le Botswana, où en fait il n'y a pas ce type d'activité, et c'est là où l'État tire le maximum de l'exploitation industrielle du diamant, puisqu'il peut percevoir donc les taxes, c'est plus facile de percevoir des taxes auprès d'une société qui est bien établie, formalisée, ainsi de suite, que d'aller chercher ça auprès des exploitants artisanaux. De 97 à 99, vous travaillez comme conseiller du gouverneur de la Banque centrale du Congo chargé des affaires juridiques et minières. De 93 à 94, vous prestez comme vice-ministre de la Justice. Quel est l'état des lieux de la justice congolaise? Nous avons posé la question à Maître Mokangolo, bâtonnier honoraire de la province du Bandundu, qui est aussi un chef coutumier comme vous. Je vous invite à le suivre et on se retrouve après.
Tout le monde reconnaît que chez nous, dans le pays, la justice ne marche pas très bien. Pourquoi, en fait, les institutions ne valent que ce que valent les animateurs? Il faut d'abord que le choix soit un choix méticuleux pour les magistrats. Et ensuite, que le magistrat suive le cursus habituel. À l'époque, on ne devenait pas juge tant qu'on n'a pas été officier du ministère public. Mais aujourd'hui, on assiste parfois à des jeunes gens qui deviennent, après 2, 3 mois, 6 mois, des substituts du procureur directement à les non-procureurs. Non, c'est un métier, c'est une carrière qui demande non seulement la science, mais aussi l'expérience. La deuxième cause, c'est des conditions très difficiles, pour ne pas dire misérables. Il faut qu'on améliore les conditions de travail de la justice, parce que le pouvoir judiciaire est un pouvoir à part entière. Et c'est en fait le pouvoir qui est habilité à arrêter les autres pouvoirs.
Réaction, Maître Kalamba, comment améliorer l'état de la justice congolaise?
Mais je crois que le bâtonnier qui vient d'intervenir a tout à fait raison d'abrosser le tableau. À mon avis, comment améliorer? Il y a d'abord donc un effort à faire au niveau de la formation. Il faut qu'on revoie un peu les conditions dans lesquelles on forme les juristes, parce que c'est ça la formation de base. Deuxième chose, il faut évidemment organiser un peu mieux la carrière, faire appel un peu plus à l'éthique, parce que quand on devient juge dans d'autres pays ou magistrat, ce sont des fonctions qui sont très respectés. C'est pas nécessairement pour se faire l'argent, mais sont respectés par la société. Et enfin, il faudrait certainement un point qui est très important, c'est la rémunération donc des ces juges qui, en fait, le jour où on va intégrer le fait que c'est une fonction extrêmement importante, c'est un pouvoir à part entière qu'il faut respecter comme tel, qui doit pouvoir en fait contrebalancer les autres pouvoirs. Les jours, on prendra conscience de ça et qu'on prendra les meilleurs, oui, les meilleurs pour pouvoir y aller et arriver. Nous avons aujourd'hui un président des États-Unis qui est sorti de Harvard Law School, qui en fait, c'est vraiment l'élite. Il aurait pu devenir juge à la Cour suprême. Son épouse est aussi sortie de Harvard Law School. Encore une fois, vous voyez, c'est des pays qui sont capables de pouvoir mettre certaines professions à un niveau très élevé et les rémunérer en conséquence. Évidemment, les résultats, c'est qu'à ce moment-là, vous aurez une justice qui soit, sereine, équitable. Ce que nous n'avons pas actuellement, malheureusement.
Grand chef Emery Kalamba Wafana, comme je disais au début, vous avez plusieurs casquettes, avocat, chef coutumier, sénateur. Que répondez-vous à ces compatriotes qui pensent que le Parlement aujourd'hui ne sanctionne pas les gouvernants et se complaît dans des recommandations qui, pour la plupart, ne sont pas suivies?
Vous savez, d'abord, le Parlement, il faut faire le distinguo, ok? Parce que dans le Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Ok, l'Assemblée nationale dispose effectivement d'un pouvoir de censurer le gouvernement. Est-ce que ce pouvoir est censuré réellement exercé?
Ça, évidemment, on pourrait donc en débattre. Mais en même temps, nous sommes en démocratie. Nous avons donc un gouvernement, l'exécutif, un parti qui est au pouvoir, qui contrôle le Parlement. Donc, il faut bien comprendre que ces partis ne se seront pas réquiris en censurant donc son propre gouvernement. Si vous voyez ce qui se passe en France, aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez beau avoir donc l'opposition socialiste s'agiter, eh bien, lorsque l'UMP a fait bloc commun, eh bien, aucune motion de censure, même déposée, ne sert absolument rien du tout. Je crois qu'on a...
Et même au détriment du peuple,
même
les a élus.
Oui, absolument. Mais ça, le peuple aura l'occasion de pouvoir se manifester. On les attend au tournant. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, il y a toujours les risques, en fait, du parti qui est au pouvoir, qui bloquerait, en fait, les motions et les censures. Eh bien, lorsqu'il viendra les élections, le peuple pourra, en fait, à ce moment-là, sanctionner donc ce type de comportement.
Vous avez aussi travaillé à un certain moment comme secrétaire trésorier de l'Association des hommes d'affaires américains au Zaïre et secrétaire général de la Conférence pour le développement socio-économique du Cassé occidental CODESCO. Qu'est-ce qui, à votre avis, freine le développement de la province du Cassé occidental?
Ben écoutez, le manque d'énergie, tant qu'on n'aura pas donc une source d'énergie donc autonome, il n'y aura pas de développement au Cassa occidental. Dernièrement, nous avons rencontré le président de la République, sénateur et député du Cassa occidental, et nous avons attiré son attention sur donc cette nécessité de doter donc la province du Cassa occidental d'une source d'énergie. Le président nous a promis et nous a dit effectivement qu'il y aurait un financement indien qui est en place pour la construction de KTND 1 et que les travaux pourraient commencer donc le premier trimestre de cette année. Donc on y est très proche.
Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, ce problème d'énergie, ça date de très longtemps. Et vous, Nassif, qu'est-ce que vous faites
concrètement?
Vous avez le diamant des intellectuels et tout, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Vous avez bien raison, nous ne sommes pas croisés les bras. Si vous voyez bien que j'étais secrétaire général de la CODESCO, la conférence pour le développement du Kassai occidental. L'objectif premier, prioritaire de cette conférence, c'était effectivement la construction du barrage de KTND 1. Sous la férule du président Tshongo, nous avons donc collecté une épargne. Nous sommes arrivés à un moment donné jusqu'à 3,5 millions $. Mais qui était tout à fait insuffisant pour pouvoir en fait compléter un projet qui était évalué à $13 millions. Et du reste, nous avons commencé les travaux dans ce qu'on appelait donc les chutes KTND en bombo. Malheureusement, donc, on ne pouvait pas aller très loin. C'était dans un contexte où le Congo, les Zaïre, à l'époque, étaient sous embargo. Souvenez-vous des années 90. Mais dernièrement encore, sous donc l'impulsion du ministère de l'Énergie, nous sommes entrés dans un partenariat avec une société qui s'appelle Klaxon Power, une société sud-africaine. Il nous restait $1,5 million. Nous avons mis dans ce partenariat. Malheureusement, ces messieurs ont disparu avec cet argent. Et le président de la République, à qui nous avons soumis cette question, nous a encore promis de nous aider, donc, par une action à exercer contre ces messieurs, aussi bien, donc, localement qu'à à l'extérieur.
I'm gonna go get some more.
Nous allons clôturer cette émission, grand chef Kalamba. Un message à tous les Congolais qui vous suivent.
Bah écoutez, quel message aux Congolais qui me suivent actuellement? J'ai dit aux Congolais que nous allons traverser une année 2009 qui sera une année difficile, compte tenu donc de la crise financière, économique, alimentaire qui s'est reflétée chez nous, notamment au niveau du secteur minier qui est en fait le moteur du développement de notre économie, 2009 sera excessivement difficile. Il faudra vraiment serrer la ceinture à tous les niveaux. Mais en même temps, comme disent les Asiatiques, derrière chaque crise, il y a une opportunité qui se présente. Aujourd'hui, ce sont les mines qui sont quasiment en faillite, mais découvrons une véritable richesse qui est en fait l'agriculture. Retournons à la terre, vous avez parlé du Kasaï, avec les exploitants artisanaux au Katanga également. Eh bien, je pense que certainement, donc, si on peut tirer profit de cette opportunité-là, pour retourner à la terre, eh bien, je crois que cette crise aura servi à quelque chose.
Grand chef Kalamba, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci beaucoup, merci.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais le grand chef coutumier Emery Kalamba Wafana, ancien vice-ministre de la Justice, vice-président chargé des relations extérieures de l'Alliance nationale de l'autorité traditionnelle du Congo et sénateur, à la technique Mimi Kindou, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiokapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Djibokodja Kalamba, dans la province du Kasaï occidental, et partout dans le monde.